Qu'est-ce que tu dirais à un mec qui hésite à venir se faire faire la barbe chez un vrai barbier?
Bah écoute, viens, suis-moi, je vais te faire découvrir un monde merveilleux. Allez, viens, on est bien.
Vous écoutez Occupation, le podcast qui va à la rencontre des gens qui vaquent à leurs occupations. Que ce soit leur métier ou leur passion, on va discuter, découvrir et si tout va bien, apprendre des choses. Aujourd'hui, notre micro est à Rouen, un soir d'hiver, 18h30, il fait nuit, mais les néons du garage sont allumés.
En fait, ce qui était marrant, c'est que je tenais la tête, tu sais, pour faire des gradés, tout ça.
Tu lâches bloqué.
En fait, je voyais un poids de plus en plus fort, tu sais, qui prenait là, comme ça, dans les doigts. Et je voyais la tête du mec, tu sais, avec les yeux qui.
La voix que vous entendez derrière moi, c'est celle d'Antoine. Il est barbier. Le moyen le plus simple de vous le décrire, c'est de dire qu'il est cool. Barbe bien taillée, évidemment. Jean, sweat à capuche gris chiné, deux bagues sur chaque main, tatouage, bonnet sur la tête. Et puis un tablier qui a l'air très solide, avec des pinces en pagaille et de quoi mettre ses ciseaux. Je l'ai observé avec Eric, un de ses clients. Et puis après la fermeture, on s'est posé dans deux fauteuils de barbier, à la cool, un micro chacun, et on a parlé de son métier. Pourquoi je vais te voir et pourquoi faut venir te voir plutôt que de se raser soi-même?
Je pense que déjà il y a le rapport du miroir devant la glace. Le fait de travailler devant son miroir, c'est quelque chose sur lequel t'es pas toujours à l'aise. Enfin, moi je sais qu'au début, le rapport de l'inversion, tu sais, du miroir, de ta tondeuse que tu veux travailler, c'était un truc pas simple. Et qui plus est, il y a aussi tout ce qui est volume de visage. Comme quoi, toi, quand t'es autour d'un client, tu peux quand même tourner à 360 autour de lui. Alors que quand t'es devant le miroir, t'es face à de la 2D, entre guillemets, et que tu dois plus ou moins adapter en fonction de ton regard. Donc dès qu'il s'agit de faire, par exemple, un contour et que tu passes ta main devant ton visage, bah là, tout de suite, ta vision est un peu faussée du résultat, quoi.
Il y a des erreurs que les gens, genre, font tout le temps. Genre, ils arrivent et tu te dis, ouais. Ça, moi, je peux, il y a que moi qui peux le faire.
Non, peut-être pas, mais il y a des erreurs sur lesquelles c'est assez récurrent. En fait, si t'as pas eu les premiers conseils d'un barbier, comme je disais tout à l'heure, les trois grandes lignes, c'est, voilà, respecter plus ou moins la hauteur de la ligne des joues. Garder aussi une moustache assez dégagée pour pas partager repas et boissons avec elle. Et dernièrement, bah, tout ce qui est ligne du cou, après, tu peux toujours t'adapter en fonction de ce que tu vois comme tuto sur Internet, etc. Mais je pense que le conseil, l'environnement, la musique, les serviettes chaudes, tout ce qui est ces petits trucs-là en plus que tu ferais pas toi dans ta salle de bain, ça joue la prestation de ce pourquoi tu viens me voir, je suppose.
Je suis en train de m'imaginer en train de me coller une serviette chaude chez moi tout seul.
Bah, j'ai déjà essayé de le faire tout seul. Alors, franchement, ça a pas le même cachet. Hein.
Ouais. Ça
non, marche, mais c'est pas pareil.
Mais alors, on en revient à ça. En fait, c'est un moment de plaisir aussi. Quoi.
Ouais, c'est surtout ça. En fait, pour moi, ce que je remarque beaucoup, c'est que pour beaucoup d'hommes, que ce soit en termes de cheveux ou de barbe, on a cette réconciliation avec le moment pour soi. C'est-à-dire que pour moi, pendant longtemps, il y avait eu un peu cet a priori sur les hommes qui s'occupaient d'eux. On a tout de suite qualifié ça de métrosexuel dans les années 2000, alors qu'il n'y avait aucune notion de sexualité là-dedans. C'était juste des mecs qui aimaient bien se faire des contours, des colliers de barbe un peu dégueu, hein, c'est sûr. Mais faut avouer que du coup, c'était des mecs qui prenaient le temps de faire justement tout ce que tu aurais pu faire chez un barbier. Mais justement, tu vois, là, aujourd'hui, on arrive un peu dans cette époque qui, avec le mouvement, on va dire, un peu hipster, la barbe, tout ça, le côté viril de la barbe a cassé un peu cette nuance de sexualité, un peu, on ne sait pas trop, pour justement laisser place à des hommes qui aiment juste, voilà, prendre du temps pour eux et pour le final, quoi.
Attends, tu m'as... Je pensais y venir plus tard, mais il faut que j'y vienne tout de suite parce que tu as lancé le truc. Il y a des trucs qui sont interdits maintenant. Genre, normalement, le gars rentre et tu dis, par la loi, normalement, il n'a pas...
Non, en fait, il y a des choses sur lesquelles tu peux conseiller. En fait, c'est pas interdit, heureusement. Il y a quand même une chose qui me vient en tête, mais je la mentionnerai pas. Il y a une moustache qui faisait fureur dans les années 40, que, à mon avis, aujourd'hui, est un peu compliquée à porter dans la rue. Mais après, oui, non, tu peux porter un collier de barbe en toute honnêteté aujourd'hui. Voilà.
Le bouc aussi, ça se fait encore.
Je donnerai pas mon avis là-dessus. Après, j'ai envie de dire que chacun est propre à son image. Et moi, je ne suis que l'artisan pour couper les poils qui vont bien avec, tu vois.
Mais alors, t'as le droit, enfin pas t'as le droit, mais des fois tu dis non. Genre, le mec vient,
ouais,
et te dit je veux faire ça, et tu dis non.
Ouais, je dis non parce que j'ai, enfin peut-être dans la prétention aujourd'hui de mon savoir-faire, de dire écoute non. là, ça t'ira pas. Ou alors, non, c'est pas hyper actuel, quoi. Tu veux parler de choses qui sont actuelles ou parfois même donner des exemples un peu flagrants. Je parle souvent de, comment il s'appelle, Las Palais, Chevalier Las Palais pour les colliers de barbe qui sont un peu affreux. On peut tout de suite aussi aller taper dans les artistes R&B des années 2000 qui a quand même aussi des beaux exemples. Et ou alors encore dans les séries comme Desperate Housewives où tu vois Carlos, le mec là, avec le mec de Eva Longoria, t'es toujours jaloux de ce mec là, en plus il a un bouc, tu vois, voilà quoi, tu vois, chacun son style, hein, j'ai envie de te dire.
Donc tu dis non plus par rapport à l'accord avec la personne en fait, que par le style en lui-même.
En fait, je vais proposer par l'accord ensuite des clients. En fait, si tu veux, dans mon propos, je vais te dire... Ouais, mais là, si on fait un book, tu vas ressembler plus à ça ou ça va plus faire ci ou ça. Dans l'idée, moi, je te proposerais plus ça parce que, en fonction de ton visage, ça est plus joli, quoi.
L'idée de pas manger ça ici, tu vois. Parce que si tu viens trop tirer là-dessus, ça a tendance à, du coup, à tirer le visage vers le bas, quoi, tu vois. On va faire un peu ça.
En fait, ça a grandi les joues.
Ouais, d'accord. Après, c'est un style, hein.
C'est un style à Iron Man, tu vois.
Non,
après, c'est vrai qu'il y a des moments où je fais attention, j'y vais. Tu sais, en général, quand je fais ça le matin, je me réveille,
j'ai dit, vous n'allez pas t'engueuler.
C'est le cliché coiffeur, mais t'as un côté un peu psy aussi, je suppose, les gens, ils parlent beaucoup.
J'ai pas la notion professionnelle de pouvoir être psy, oui. Tu vois. J'entends que j'écoute beaucoup, parfois, les problèmes des gens, etc. Après, c'est vraiment pas mon rôle de m'immiscer là-dedans. Parfois c'est surtout de l'actualité qui revient plus que des problèmes perso. J'ai aussi des problèmes perso, mais là-dessus je peux que donner mon humble conseil qui est pas forcément toujours hyper
tu préfères donner un conseil perso ou parler de la présidentielle?
Voilà, c'est gros débat, tu vois. Je sais que tout le monde est friand de sujets qui laissent à débattre, qui plus est dans un salon où y a des gens dans tous les quatre coins de la pièce. Et je trouve que c'est intéressant de parfois entrer là-dedans, même si c'est très risqué, tu vois. Je pense qu'il y a des personnes avec qui tu peux avoir ces conversations-là et il y a des personnes avec qui tu peux pas parce qu'il y a des gens qui sont bien trop arrêtés sur leurs idées et avec qui tu peux pas débattre. Mais ça, c'est plus un état de fait à la société qu'un salon de coiffure. Je pense que je suis pas le psy de mes clients. Mais je suis la personne qu'on voit une fois par mois et qui on peut, voilà, lâcher des bombes comme ça sans qu'il y ait vraiment d'impact derrière, quoi, tu vois. J'ai déjà eu de la peine pour des clients, j'ai déjà eu, voilà, un sentiment hyper réciproque pour des clients qui ont parfois eu des super nouvelles ou des super mauvaises nouvelles. C'est aussi l'aléa de notre métier qui est vachement aussi, on va dire, enfin, au cœur de la société, quoi. Tu sens que quand il y a des confinements qui se profilent, il y a deux semaines de Paris avant que ça arrive pour dire, eh, moi, je pense que ça sera pendant tant de temps, etc., etc. Après, t'as aussi ceux qui vont, voilà, te mettre en avant le fait que t'es le seul mec qui te permet est-ce qu'ils se sentent bien ou est-ce qu'ils sont, tu vois. Enfin, j'ai pas d'exemple comme ça à te donner, mais.
Non, mais c'est vrai que vu la période en plus, avec ce qu'on a eu, les confinements, etc., ouais. Comme tu dis, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de parler, en fait, quoi.
Bah, plus ou moins, mais pas de manière physique. Et c'est là où je pense que nous, les coiffeurs, au-delà de notre métier de couper des cheveux, etc., on a été aussi ces personnes-là qui, dans la société, avons été ouverts avant les bars, avant ces choses-là. Donc il y avait un peu ces retrouvailles un peu derrière les fauteuils de coiffure, mais... dans un contexte un peu différent où tout le monde était un peu en face de la glace sans à discuter, mais pour autant, enfin, voilà.
Avant de venir te voir, je me suis dit, je vais regarder plein de reportages sur les barbiers. Et alors, t'as deux versions. C'est-à-dire que soit c'est le dernier truc à la mode, tout le monde est cool, etc. Soit c'est le métier d'antan et on va voir un barbier qui a 75 ans, qui fait ça, qui faisait Johnny Hallyday dans Paris,
qui est,
etc.
Qui est tout seul, voilà. Dans son petit bouclard.
Toi, c'est quoi ta vision du métier? Est-ce que c'est entre ces deux trucs-là? Est-ce que ces clichés-là, par exemple, ils te parlent?
Oui, évidemment, parce que c'est sur les plans les plus simples qu'on voit. En fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment deux dynamiques à ça. Il y a celle d'effectivement la mode un peu hipster qui a relancé la mode du barbier en général et qui, du coup, l'a laissé implanter au-delà de cette mode-là, tu vois. Et il y a aussi, effectivement, ceux qui sont là depuis super longtemps. Moi, je me reconnais ni dans l'un ni dans l'autre. Si tu veux, aujourd'hui, Je pense avoir, tu vois, une vraie passion pour ce qu'est ce métier-là, dans le côté un peu justement, comme tu dirais, le mec qui est tout seul dans son bouclard et qui fait quelque chose de hyper classique et qui fait quelque chose de, voilà, très réputé pour ce qu'il est. Comme aussi bien, tu vois, de par mon âge et de mon dynamisme aujourd'hui, de me dire que j'ai envie d'être aussi dans ce truc un peu stylé, un peu dynamique, où il y a de la musique techno, ou j'en sais rien, tu vois, mais un truc où justement t'as un peu ce contraste des deux. Aujourd'hui, moi, j'ai pas vraiment de position là-dedans. Je pense que il y a pas de bon, il y a pas de mauvais, il y a du bon et du mauvais à prendre dans les deux. Je pense que c'est tout un art à part entière et c'est pour ça que j'y construis, on va dire, moi, mon petit personnage contrasté d'un peu tout ça. Avec aussi une culture aussi que t'as pas forcément mentionné sur tout ce qui est plus street aussi. Il y a un côté très street à, au barbershop, hein, je pense au barbershop de tout ce qui est Brooklyn, t'as aussi dans les quartiers de Londres, etc., qui aujourd'hui sont un peu encore en autre différence chez nous. Hein, c'est plus des tout petits salons de 15 mètres carrés où il y a 12 mecs qui attendent devant pour payer 10 balles, tu vois. Ça a aussi ce côté street-là qu'il faut prendre en compte, tu vois. Et j'essaye de mélanger un peu tous ces styles-là parce que je sais que je suis un peu dans... Enfin, je suis pas une personne, tu vois, qui veut avoir tel style. Je pense que je vais aimer prendre un peu de tout pour en faire un seul et gros truc.
Toi, tu t'assimiles pas à un de ces clichés, etc. Mais est-ce que ça façonne votre clientèle? Parce que, il faut le dire, là, t'es en face de moi, t'as un sweat à capuche, un bonnet, t'es tatoué, t'as quelques bagues.
Ouais.
Et moi, je vais te dire, les premières fois que je suis venu ici, je me disais, ouais, ils sont tous super cool, en fait. J'osais à peine rentrer, tu vois.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a déjà des gens qui m'ont dit, ouais, mais je suis pas assez stylé pour aller me faire coiffer au garage. En fait, je trouve que je vois ce que ça renvoie comme image. Mais au contraire, tu vois, c'est ce qu'on essaye. Enfin, ce que moi, j'essaye d'impliquer un peu aussi dans mon travail, c'est que tout de suite, dès que tu t'assois, on se rend compte qu'on est deux êtres humains tout à fait égaux, toi et moi. Enfin, égaux, pardon. En plus, si je sais pas parler français, c'est mieux. Mais du coup, tu vois, ça ramène un truc où oui, j'ai peut-être des tatouages, un bonnet ou ce que tu veux, mais je suis quelqu'un qui, comme toi, va se lever le matin avec les yeux collés et qui va arriver avec peut-être 5 minutes de retard pour dire hey, désolé gros. Enfin, sur un truc très très simple. Et en fait, oui, je comprends dans le sens où oui, ça paraît stylé, ça paraît si, mais je pense que vaut mieux toujours faire envie que pitié. Et pour ça, en fait, nous, on a toujours essayé d'amener un peu ce côté coloré qui donne aussi, on va dire, l'attirance à l'œil, tu vois, de se dire putain, ouais, ça a l'air cool là-dedans, tu vois. Qui je suis moi pour aller me faire couper aussi bien et c'est ça que je trouve de cool chez nous, c'est que vraiment on a un contraste de clientèle très différente, quoi, tu vois. T'as aussi bien des mecs qui sont là, tu sais, patrons du CAC 40 entre guillemets, qui se sont dit ouais, par ce côté hype qu'a le garage aussi, vas-y, j'ai envie d'essayer de me faire coiffer là-bas. Et aussi ce côté un peu plus, comme je faisais mention avant, street, où les mecs ils viennent me voir tous les 15 jours pour avoir le dégradé nickel sur le terrain de foot, tu vois.
Je parlais du look, mais c'est vrai que c'est un ensemble, hein, le ouais, garage, il y a les murs colorés, il y a le style,
ouais,
il y a la
musique. Même à l'intérieur, t'as plusieurs personnes qui ont tous des styles différents, entre moi qui est plus effectivement peut-être on va dire un rapport hip-hop, Alex qui a un rapport beaucoup plus métal avec sa crête rouge, Sophie, Sarah, tout le monde ici a chacun on va dire un peu sa touche à lui-même. Et je trouve que c'est ce qui fait mention justement au style le garage, tu vois, on parlait pas du salon. Mais le salon Le Garage, il a été créé par Sophie S, du coup, qui a monté ça il y a 10 ans et qui s'est dit ouais, en fait, pour moi, Le Garage, c'est un style de musique anglais où t'as du punk, t'as du metal, t'as une pointe de hip hop dedans et t'as ci, ça, ça. Et en fait, ça crée un tellement beau ensemble qu'en fait, on va appeler ça Le Garage, tu vois. Et en fait, là, c'est un peu pareil. Si tu veux, on a un peu tous des horizons, des origines un peu différentes, tu vois, avec telle ou telle motivation pour le futur qui sont toutes différentes, tu vois, mais qui sur un seul et même endroit, rejoindre des gens dans une seule et même passion, c'est de couper des poils, tu vois.
Et c'est marrant, moi, j'allais te dire ça, c'est que c'est un des trucs que je me suis dit, une des premières fois où je suis venu, je sais plus si je faisais le shampoing ou je sais plus quoi, et puis je me suis dit, putain, c'est cool, j'entends pas ce genre de son quand je vais dans chez des coiffeurs d'habitude.
Ouais, ça aussi, c'est quand même une chose sur laquelle on essaye de quand même bien jouer. Enfin, moi, j'aime beaucoup la musique, personnellement, j'en écoute beaucoup, beaucoup, et je crée des playlists au moins une fois par mois pour avoir, tu sais, derrière moi, justement, quand je travaille, une petite trentaine de sons que je viens de découvrir dans le mois, comme aussi bien des vieux sons, et je pense que dans cette dynamique-là, on n'est pas comme dans d'autres salons qui se contentent juste de payer la SACEM, de mettre Chérie FM, et puis c'est très bien, quoi. Par contre, d'entendre les pubs Leclerc, machin, je sais pas quoi. Hey, dealer, Yonette, oui, c'est bon. Tu vois.
Il faut qu'on arrive à la question essentielle. J'espère que t'auras la référence, mais pour toi, c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais barbier?
Ah, qu'est-ce qui est bon ou mauvais?
Je sais pas si tu connais le sketch des Inconnus sur
non,
les chasseurs.
Non, ça me dit rien.
Bon, t'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Ouais. Voilà. Il tire. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais c'est un bon chasseur. Hein.
Franchement, c'est difficile à dire. Je pense que ça démarre par la passion. Première chose, tu vois, je pense que à partir du moment où t'es passionné dans ce que tu fais, on voit tout de suite la différence, tu vois, de quand tu fais quelque chose de très alimentaire et que tu dis bon bah bonjour monsieur, qu'est-ce qu'on fait, ok vas-y je vous le fais, merci, au revoir, tu vois, c'est moins dans la bonne démarche que d'essayer de rentrer justement, en fait pour moi on est dans un métier qui est hyper humain et au-delà de couper des poils avec des ciseaux qui est clairement la base du métier avec tel ou tel angle, c'est une chose, tu vois, il y a aussi ce rapport humain auquel t'échanges et tu te dis bon ok qu'est-ce que je vais faire pour que le mec en ressortant il se dise putain ouais je suis stylé quoi, tu vois, et pour moi c'est un peu ça le but du jeu, que tu ressortes avec tu vois une bonne humeur, tu vois, que tu sois passé pendant 10 ou 15 ou une heure avec moi, tu vois. Je pense que l'essentiel, c'est d'avoir échangé, c'est d'avoir conforté ton idée de te dire « Ah bah tiens, telle coupe m'ira bien, mais encore mieux si c'est tel mec qui me le dit en plus comme ça, tu vois. » Et je pense que ça, c'est un tout, tu vois. Les mecs qui sont là juste pour couper des poils et te dire « C'est bon, ça te plaît », c'est pas la même démarche, quoi. C'est un peu bizarre à dire, mais je vais un peu prendre la métaphore de comme dans le film Soul de Disney, là. Tu sais, il y a un moment où, en fait, les acteurs qui sont là dans leur boulot, ils ont les yeux fermés, ils sont dans un monde un peu parallèle dans lequel ils s'amusent. Bah, c'est un peu pareil. Moi, quand j'arrive devant mon client, j'ai pas forcément la tête ou la coiffure à proprement parler quand j'arrive. Par contre, je sais qu'en travaillant ça, en faisant ça, en touchant telle mèche, en les plaçant d'un côté là ou de l'autre côté, ah ouais, non, ça rend bien. Ok, non, c'est pas bien. Enfin, tu vois, et c'est là-dessus que je joue beaucoup, tu vois. Donc, j'ai pas à proprement parler des codes de coiffure précis pour dire oui, lui il faut ça ou ça. En fait, comme je t'ai dit, c'est du feeling.
Tu disais, alors, il y a un moment où je suis dans une sorte de zone quoi, quand je fais mon truc. Donc toi, il y a un moment où tu prends du plaisir, où ça devient un peu du... Ouais. Je sais pas si tu dirais de l'art, mais tu vois, tu pars dans un truc à...
Je trouverais ça prétentieux d'appeler ça de l'art, mais non, c'est plus dans un sens où vraiment c'est la belle métaphore qui a été trouvée dans ce dessin animé-là que je disais tout à l'heure. C'est qu'il y a un truc où vraiment t'es un peu dans un entre-deux-monde, tu vois, dans lequel t'es conscient, effectivement, de ce qui se passe autour de toi, de qui t'as entre les mains et de ce que tu fais, parce que si t'es pas conscient, à un moment, c'est quand même un peu dangereux avec les lames. Hein. Mais en fait, t'as vraiment, on va dire, cette espèce d'entre-deux dans lequel tu te dis « Ok, je connais mon métier, je sais que j'ai déjà vu des exemples de telle ou telle personne qui pourrait potentiellement entrer en adéquation avec le mec, toutes les questions qu'on a discutées là pendant 10 minutes, ça me donne en fait un espèce d'entonnoir dans lequel je réduis mes idées et j'arrive à dire « Ok, vas-y, on part là-dessus ». Et là, tout de suite, démarre, on va dire, un espèce de processus dans lequel, voilà, on échange en termes d'actualité, de tous les jours. Et en plus de ça, je suis là en train de couper des cheveux d'une manière à ce que ça soit joli à la fin, tu vois. Donc, je vais avoir une conversation avec toi et entre deux, je vais te couper en te disant, ouais, et sinon, là, la mèche, qu'est-ce que t'en penses? On peut la réduire un peu, on fait ci, on fait ça. Et en fait, chaque cheveu, on va dire, est important sur une tête, tu vois. Tu peux prendre le temps de, justement, en fait, et c'est aussi ça pour moi, la différence, comme tu disais, entre les bons barbiers et les mauvais barbiers, c'est de prendre le temps aux choses, tu vois. Si t'as un peu de retard, c'est une chose, tu vois. Mais tu fais ton travail jusqu'au bout et de manière qualitative. Et c'est là où tu auras aussi des clients qui voudront revenir te voir plutôt que l'inverse, tu vois. Si tu fais un travail en rapide, enfin du fast-food, entre guillemets, de barbeur, bah voilà.
Mais toi, tu vois, personnellement, physiquement, il y a des jours où, tu sais, tu es dans ton truc, tu coupes, tu tailles, etc. Et tu te dis, je le sens bien aujourd'hui, tu as des bonnes sensations, tu vois, quasiment comme un sportif, tu vois. Et t'as des
Je vois ce que tu veux dire. Alors oui et non. Je sais pas comment dire ça, mais je pense que je suis dans un truc qui me plaît. Et ça, j'ai la chance déjà de pouvoir le faire. Ça, c'est indéniable. Je suis dans un métier qui me plaît et dans lequel je peux aujourd'hui aussi bien partager mes idées personnelles que professionnelles, tu vois. Aussi bien quand j'ai des idées de vouloir, tu sais, je te parlais tout à l'heure de faire des couleurs, des mèches, des machins, des trucs. Il y a qu'aussi dans ce contexte-là où tu peux faire valoir ton travail, tu vois. Si tu parles de couleur ou de coupe de cheveux à un mec dans la rue, ouais, ça t'irait trop bien ça. Quand tu parles pas devant un miroir, le mec il va dire ouais, carrément, ouais, je suis chaud.
Mais non, tu parles dans la rue. Je me demandais d'ailleurs, est-ce que t'as une déformation professionnelle des fois, genre quand tu croises des gens dans la rue ou même tu regardes un film au ciné, j'en sais rien, et tu vois des barbes ou des trucs et tu te dis ça va pas.
Ouais. Bah après, ça, c'est de la déformation professionnelle. Hein. C'est un peu comme quand... Ouais, frère. Vraiment. J'ai déjà croisé des potes à moi dans la rue en lui disant « Ouais, t'es sérieux ?» Et toi, non, attends, et... Oh. Non, non, c'est... Ouais, c'est de la déformation professionnelle, mais rien de hyper alarmant, quoi, tu vois. Mais ça m'est déjà arrivé, genre, surtout dans la série Viking, parce que je l'ai regardé il y a pas longtemps, là. Et ils ont tous des grosses barbes, tu sais, où c'est le bazar dedans. Mais tu vois que c'est des fake beard, mais c'est hyper bien fait. Franchement, il y a un taf de malade dessus.
Ah oui, tu vois quand c'est faux.
Ah oui, je le vois quand c'est faux. D'accord. Je sais quand c'est faux. C'est pareil, je sais quand il y a des mecs qui se refaient planter des cheveux, je vois quand... En fait, je pense qu'avoir, passé maintenant 6 ans dans le métier de manière un peu intensive, hein, ça m'a donné aujourd'hui un petit recul sur ces choses-là. Après, de là à l'appliquer tous les jours dans la rue, ça serait devenir taré, tu vois. Genre, je mange pas des cheveux au petit déjeuner, je me couche pas dans un lit de cheveux, tu vois. Genre, j'aime bien, mais tranquille.
on a parlé un peu tout à l'heure ce qui se faisait, ce qui se faisait pas, etc. Mais est-ce que sur la barbe, parce que c'est vrai que on se dit, tu tailles une barbe. Bon. Est-ce que tu as autant de liberté que sur les cheveux, finalement ?
Ça dépend. Ça dépend, en fait, ça dépend de plein de choses. Je pense que la liberté, elle dépend pas que de toi. Déjà, elle dépend de l'implantation du mec. Et tout le monde n'a pas la même barbe, tout le monde n'a pas la même... Enfin, tout le monde n'a pas le même visage, donc tu peux pas forcément toujours adapter la barbe que tu vois en photo de tel artiste à tel mec qui a trois poils sur la joue, tu vois. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui s'adaptent. Après, il y a des choses, comme on disait tout à l'heure, qui sont plus d'actualité, qu'il faut pas non plus proposer. Genre, tu peux faire un collier de barbe, tu vois, mais franchement, ça serait pas mettre en valeur ton client, quoi.
C'est quoi le truc le plus dingue que t'aies fait ?
Le truc le plus dingue que j'ai fait, en termes de barbe, en termes de cheveux...
En termes de barbe, ouais.
En termes de barbe, ça m'est déjà arrivé qu'un client... Alors, c'est assez particulier, mais en gros, lui... Depuis des années, il avait élaboré son dessin de barbe. C'est-à-dire que, bon, pour faire simple, en gros, t'as déjà vu je crois que c'est le premier, comment ça s'appelle, Hunger Games. Tu vois, dans ce premier-là, il y a un mec, il a des dessins, tu sais, des espèces de courbes. Enfin, c'est assez fou, tu vois. Et bah, là, c'était un peu pareil. J'ai pas d'exemple c'est difficile à expliquer. C'était très graphique. C'était très dessiné. Il y avait des gros dégradés sur certaines pattes. En gros, ça se dessinait comme des pattes avec des lignes qui se rejoignaient. Enfin, c'était techniquement assez graphique. Donc ça, c'était assez fou. C'est un truc qu'on n'a jamais vu à part peut-être au cinéma, quoi. Et ou sinon, après, c'est des couleurs. J'ai déjà fait des couleurs de barbe. Ça m'est déjà arrivé. Et je le conseille pas.
D'accord. C'était quelle couleur ?
Ouais, c'était un mec, il était venu me voir pour faire un noir type Iron Man, sauf que le mec, en fait, à la base, pour faire simple, il était allé dans un autre salon, le mec, il lui avait mis une couleur particulière sur le visage, le mec, il avait fait une réaction chelou, tu vois, du coup, il était venu nous voir après, genre, vous avez pas d'autre chose pour que ça fasse bien, tu vois ? Et on a dit, ouais, on va essayer avec un autre produit, et puis en fait, tu te rends vite compte que c'est pas naturel et que c'est pas joli, tu vois.
C'est déjà arrivé, d'ailleurs, qu'un mec regrette ? Tu vois, genre, je sais pas, il avait une belle barbe et puis il a coupé un peu et puis il voulait en garder plus ou j'en sais rien, ou même des plus gros regrets que ça.
Oui et non. Et alors là, c'est plus, on va dire, quand tu t'es pas très bien compris avec ton client. Enfin, pour moi, ça vient pas du client qui est dans le regret, mais c'est plus toi qui a pas compris ce qu'il voulait, tu vois. Et dans ces cas-là, tu peux t'en prendre qu'à toi-même et à ton travail, tu vois. Enfin, en fait, je pense que, comme je te disais tout à l'heure, si t'arrives à poser toutes les bonnes questions et à affiner toutes les idées pour avoir un entonnoir et avoir plus que le résidu de ce que tu dois faire et de le faire bien, bah voilà, normalement tu t'exposes pas à ça. Après oui, c'est déjà arrivé qu'un mec qui me dise ouais vas-y viens on fait une moustache pour Movember et après il fait
ah ouais j'avoue là...
La moustache, ça va avec quel type de visage ? Tu vois, par exemple moi qui suis chauve j'hésite.
Ouais, je comprends, parce que alors ça va pas forcément à tous les visages, mais ça va aussi à des mecs qui ont aussi plus de cheveux, hein. Si tu veux, ça dépend de ce que toi tu oses assumer ou pas. Et c'est vrai qu'une moustache, ça a un côté très old school, tu vois. Pour la plupart des gens qui sont trentenaires aujourd'hui, ça peut faire soit penser au grand-père, soit au père, tu vois. Et dans ces cas-là, tu sais, on n'a pas toujours envie de ressembler à nos aînés, tu vois. On aime bien, nous, les mecs, ressembler à qui on veut être, tu vois.
On parlait du cliché du barbier old school. Donc le reportage sur le barbier parisien, tout seul, etc. Il rasait quelqu'un totalement. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de barbe et que c'est la mode, etc. Mais est-ce que tu as des gens qui viennent pour se faire raser, en fait, tout simplement ?
C'est de plus en plus rare parce qu'effectivement, aujourd'hui, la barbe, dans toutes ses formes, est très portée, surtout en France. Hein. J'ai remarqué qu'en France, on était des grands pileux, entre guillemets. On aime bien porter la barbe ou la moustache ou même une barbe de 3 jours, tu sais, ou bouquet moustache. En fait, je pense que il y a un peu ce rapport-là d'esthétisme, un peu de flemme, si je puis dire. Les hommes qui veulent plus se raser tous les jours, ça fait partie aussi d'une génération. Après, j'ai encore des mecs qui viennent me voir pour se faire raser totalement. Ça fait plus partie aujourd'hui de ce qu'on appelle un rasage traditionnel en tant que prestation, parce que tu vas vraiment prendre beaucoup plus de temps pour vraiment bien faire les choses. Tu vas pas raser que les contours, donc là tu vas prendre le temps de préparer la peau avec tout ce qui est serviette chaude, serviette froide, crème de pré-rasage, huile de pré-rasage, il y a plein de choses, hein. Tu peux faire une totale rituel, on parlait de rituel tout à l'heure, et bah là, qui plus est quoi.
Non, parce que c'est tout un cérémonial en plus, c'est ça.
Bah, c'est ça, avec le tac et tout.
Quand il arrive, en fait, il prend sa serviette, il le pose là sur le côté, son petit savon, hop, 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 donc sur tous les contours, et il sort le coupe-chou, et là, mais voilà, ça, je veux dire, c'est un métier, quoi, c'est fait passer comme ça.
C'est tout un protocole.
Et c'est même pas un protocole, moi, je préfère, c'est quoi, c'est une espèce de... Moi, j'appellerais ça plutôt un rituel, un cérémonial en fait. Ce protocole, ça fait un peu froid et scientifique. Là, on est sur autre chose. Et voilà, ouais, pour moi, c'est un cérémonial en fait. Toute la préparation et puis après l'exécution. Et c'est ça qui est sympa.
Toi, on va revenir juste un peu en arrière. Comment tu t'es retrouvé là? Comment voilà. T'as su que tu voulais être barbier en fait?
Ouais, c'est un des circonstances qui ont fait que aujourd'hui, j'en suis arrivé là. Je pense que à une époque, j'étais un peu dans un cursus un peu classique de sortie de bac, fac, etc., qui a pas duré longtemps. Hein. Et j'ai eu, on va dire, la chance dans ma vie de rencontrer une nana qui partait à l'étranger à l'époque. C'était en Angleterre. Et moi, qui à l'époque sortais un peu de cet échec scolaire, je me suis dit pourquoi pas la suivre. Hein. Tu sais, j'avais rien d'autre à foutre que ça. Et en vrai, non, par contre, je suis arrivé sur place avec elle, donc j'ai été assez surpris, évidemment, moi, petit provincial, d'arriver dans une ville telle que Londres, et avec tous les styles qui y sont arborés, je peux te dire que j'étais parfois assez épaté et même séduit, hein. Je voulais ressembler à certains mecs qui se baladaient dans le métro, là, les mecs avec des grosses barbes, tu sais, les costumes hyper cintrés à carreaux, les gros sneakers aux pieds et tout, et là, tu fais « Ah ouais, ça envoie », tu vois. Du coup, j'ai un peu essayé comme ça, par curiosité, de me laisser pousser la barbe. Comme, on va dire, trois quarts des gens, j'ai d'abord essayé de le faire tout seul, en me disant « Ah ouais, c'est pas ouf ». Du coup, je suis allé chez un barbier et là, j'ai fait « Ah ouais ». Coup de cœur. Vraiment, quand je te dis coup de cœur, ça a été impressionnant parce que j'ai passé le pas de la porte et ça a été « Hey, what's up, man? If you want, there are beer in the fridge. Take it if you want. Oh, man, you're French. You want to talk? » Ouais. T'sais, et du coup, il parlait. Et puis, tu te sentais en fait déjà dans un endroit dans lequel tu étais à l'aise. Et pour moi, c'est... alors, il y a aussi la grosse nuance du « you » en Angleterre qui brise beaucoup de barrières sociales. Je trouve que le « you » qui... tu et vous voir en même temps brise beaucoup de barrières et je trouve que là-dedans, moi, ça m'a amené un peu aussi cette aisance que je veux retransmettre dans mon métier. Moi, aujourd'hui, j'ai facilité à tutoyer des gens pour aussi ce contexte de mise en confiance, de te sentir, on va dire, plus que dans un salon, on va te sortir la totale pour que tu raques à la fin, quoi, tu vois. Et c'est ça qui m'embête un peu, c'est que pour moi, la coiffure est... aussi simple soit-elle, tu vois, faut que ce soit un moment d'une demi-heure ou une heure avec un mec ou une nana avec qui tu rigoles, tu parles, tu profites et tu repars avec la tête vidée et voilà quoi. C'est comme ça que j'ai vu pour moi la première fois ce métier-là et c'est comme ça que j'ai essayé de le retranscrire en revenant en France, en apprenant à faire tout ce qui est CAP coiffure, tout ça quoi.
Oui, donc on rappelle, c'est ouais. CAP coiffure ouais. Parce qu'il n'y a pas de formation de barbier à 100%. En
fait. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, il y en a, tu sais, comme dans n'importe quelle formation que tu peux reprendre, on va dire un peu rapidement, mais pour moi, le meilleur cursus à suivre pour rester dans des lignes de la coiffure en général, il faut passer par le CAP, ensuite le BP. Tu peux faire une mention complémentaire, mais c'est pas indispensable. Et ensuite, là, t'es déjà qualifié. Après, c'est beaucoup de pratique. Je pense que la théorie, c'est une chose. Et malheureusement, encore aujourd'hui, il y a un énorme décalage entre la théorie et ce qu'on pratique encore en salon, tu vois.
T'as beaucoup de pratique, du coup, dans le CAP coiffure. Parce que, donc, on le redit, tous les barbiers sont coiffeurs, mais tous les coiffeurs ne sont pas barbiers.
C'est ça. En fait, c'est là où, en fait, si tu veux, pour moi, il est important de passer son CAP et son BP coiffure dans la foulée. Pour moi, en fait, tu peux prendre ta formation barbier dans la foulée et aller tailler des barbes toute la journée, quoi, tu vois. Mais première chose, je pense que c'est pas rentable de faire que ça. Deuxième chose, je pense que tu te fermes à un monde qui est complètement ouvert à plein de sujets, parce que la coiffure, c'est quand même hyper large. Et troisième chose, on a surtout en France une réputation à l'international pour ce qu'est la coiffure, tu vois. Un peu comme la cuisine. On a une réputation de par les noms de L'Oréal, Jean-Louis David, Camille Alban, je vais pas tous les citer, mais tous ces trucs-là, si tu veux, ça a quand même un peu de notoriété. Et ça fait partie, pour moi, des choses qui, indirectement, ont influencé la théorie de la coiffure en général aujourd'hui, quoi. Et pour moi, c'est une richesse à acquérir qui est pas négligeable. C'est-à-dire que oui, c'est pas funky de faire des permanentes sur des mémés ou sur des têtes postiches. Par contre, quand aujourd'hui, en 2022 ou 2021, là, t'as la mode des mecs qui viennent te voir pour refaire des permanentes, tu te dis, ah ouais, les cours de permanente, c'est pas...
Oui, il y a moyen de s'amuser.
Ouais, alors que tu t'entraînes sur des trucs, c'est affreux, quoi, tu vois. Et c'est là où je te dis qu'il y a un décalage, c'est que pour moi, dans la coiffure, t'étudies des choses qui sont très classiques, parfois en total décalage avec la mode, mais ça te permet d'avoir les bases, tu vois. Et une fois que t'as les bases, tu peux partir dans la créativité, dans tout ce que tu veux, et là tu t'amuses.
On parle d'apprentissage, de pratique. Tu manies des objets tranchants du coup toute la journée.
Ouais.
Dans la pratique, tu te coupes, ou alors en fait, comme tu manies toi le truc, tu peux pas vraiment te couper?
Bah si, ça arrive, hein. Ouais. Tout le monde est à sujet d'un accident de travail, hein, tu sais, qui plus est chez nous, attends. Non, ça, en vrai, ça arrive, c'est des petites coupures sur le bout des doigts, mais ouais. jamais grand-chose de grave, tu vois.
On va faire un petit conseil pratique. On a dit, tous les coiffeurs peuvent être barbiers, du coup, techniquement, ils peuvent l'afficher sur leur façade maintenant.
Techniquement, oui.
Donc toi qui pratiques, qui est vraiment expert dans ce domaine-là, qu'est-ce que tu conseilles à un mec qui veut aller chez un barbier? Comment il sait si c'est bien ou pas, entre guillemets?
C'est un peu compliqué comme question. Je pense que c'est difficile de savoir d'avance quand t'es devant la vitrine. Après, je pense que ce qui t'aiguille un peu, c'est les temps d'attente. Hein. Des fois, parfois, quand tu rentres dans un salon et qu'on te dit « il y a beaucoup d'attente », je pense que c'est pour la bonne cause, tu vois, c'est pas pour l'inverse. Et autrement, non, je saurais pas comment répondre à cette question-là, je t'avoue.
Non, il n'y a pas de piège, mais c'est vrai que comme on voit des barbiers, tu vois, à tous les prix et de tous les styles, tu vois, est-ce qu'il y a des indices?
Moi, je pense qu'effectivement, la prestation, déjà en termes de coût, c'est un indice, effectivement, quand tu sais que t'en as pour 10€. Voilà. C'est comme quand t'achètes un bon sandwich à 15€ et quand t'achètes un sandwich à 5€, voilà. Le travail, il est pas le même, si tu veux.
Après, dans l'extrême inverse, il y a des salons sur Paris qui facturent 50 ou 60 balles. Est-ce que c'est pas l'extrême?
Ouais, mais Paris, c'est un microcosme. je vais pas prendre cet exemple-là.
Est-ce que les prix des barbiers sont indexés sur le prix du mètre carré, en fait?
Ouais, non, mais je pense que c'est adapté à ça. Non, puis à Paris, on va dire qu'il y a aussi, c'est tout un cosme assez particulier, Paris. Hein. Tu sais, déjà, il y a beaucoup de réputation à jouer à Paris. Moi, j'ai déjà vu les meufs comme la barbière de Paris et tout ça, ce que je trouve hyper stylé, hein, mais qui est un peu ce que j'appellerais de la haute couture de barbe, quoi, tu vois. Là, tout de suite, on est dans un autre service encore de barbier. Là, t'arrives et tu te fais pimper par la barbière de Paris, tu vois. C'est pas le barbier dans lequel tu vas chill encore comme là, on l'est ici, quoi.
Il y a des stars, parce que tu parles de la barbière de Paris, il y a des stars de la barbe, du coup, maintenant, en France?
Des stars de la barbe, je pense que ça attire surtout les coiffeurs, hein, tu sais, ils sont suivis par des coiffeurs. Moi, je suis deux, trois mecs qui sont quand même assez connus. Des stars de la barbe, il y en a deux qui me viennent en tête et je pense que même n'importe quelle, on va dire, personne aujourd'hui les visualise, c'est les mecs de chez Reusel, je sais pas si tu vois. C'est, tu sais, ils ont sorti un peu la marque là que j'utilise.
D'accord,
partout.
Ouais.
Et en fait, ces mecs-là, ils sont sur plein de vidéos YouTube. Ils ont démarré en même temps leur marque, en même temps leur concept. C'est des barbiers hollandais qui sont à Rotterdam. Okay. Et en fait, ils ont... Je sais pas, ils ont une qualité d'expression qui est assez littéralement compréhensible pour n'importe quel français qui maîtrise pas l'anglais, tu vois. Et c'est des vidéos tuto où les mecs, ils te font quand même d'une manière assez explicite comment ça marche pour faire du barbeur. Et surtout dans un contexte où les mecs, tu les vois dans un barbershop où c'est carrément à l'ancienne. Ils ont tous des blouses, ils ont des petites moustaches qui remontent avec des pointes, tu sais. Et puis ils ont tous un style assez affirmé, quoi, tu vois.
J'ai l'impression que le look, ça joue beaucoup quand même dans le milieu.
Je sais pas si ça joue beaucoup, mais tu es forcément une vitrine mobile. Moi, je suis pas une vitrine de ce que je renvoie comme travail, mais t'es obligé de renvoyer quand même quelque chose d'assez, on va dire, plutôt attrayant plutôt que l'inverse. enfin, pour moi, c'est quelque chose d'assez important de savoir se faire, enfin, non, comment dire, de savoir séduire, entre guillemets. Il y a une part de séduction quand même dans ce métier-là.
Alors, un dernier mot. Qu'est-ce que tu dirais à un mec qui hésite à venir se faire faire la barbe chez un vrai barbier?
Je pense qu'il
qu'est-ce
faut...
que tu dirais à un mec qui hésite à venir chez toi, là, qu'il est devant la porte, tu vois, il dit bonjour.
Ouais.
Qu'est-ce que tu lui dis pour l'inciter à rentrer?
Écoute, viens, suis-moi, je vais te faire découvrir un monde merveilleux. Allez, viens, on est bien. Moi, je sais pas ce que je dirais, je pense que je dirais, écoute, franchement, tu sais pas ce que tu rates, tu vois, ou un truc comme ça, parce que, en vrai, dans l'idée, comme on disait tout à l'heure, c'est un moment où je pense que beaucoup de mecs se sont un peu détachés, tu vois, de ce qu'est le salon de coiffure, etc. Parce que, comme tu disais, pourquoi on pourrait pas le faire chez nous? En fait, je pense que c'est, pour moi, mon travail et la façon dont je vais le faire, sans avoir forcément les mots, va te réconcilier un petit peu avec ce moment pour toi, tu vois. Sans être trop dans la détente spa, machin, tu vois. Ni en étant trop dans la conversation de coiffeuse, genre, il fait beau, ouais, il fait beau, tu vois.
Et puis d'autant que t'es pas obligé de venir le faire hyper hyper régulièrement, ça peut être un plaisir de temps en temps, quoi.
Exactement, moi j'ai eu des mecs que je vois une fois tous les 6 mois, là d'ailleurs j'avais vu un mec que je vois une fois tous les 6 mois, mais ce mec là à chaque fois qu'on se voit c'est une explosion de bonheur, parce que ce mec là il respire la joie de vivre, déjà c'est super cool d'avoir ce genre de personne. Et même, tu vois, il y a un peu, du coup, maintenant, une fois tous les 6 mois, ce truc de rendez-vous où on sait qu'on se voit une fois l'été, une fois l'hiver, tu vois. Et du coup, c'est assez rigolo parce que, tu vois, on a plein de choses à se raconter entre les deux et entre deux, tu vois. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées que c'en est drôle, tu vois. Et puis, c'est ça que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est les rapports de relations, tu vois. J'ai des relations avec des personnes où on pourrait pas qualifier ça d'amitié, ni même de connaissance, parce que c'est pas assez, c'est pas aussi peu que la connaissance, c'est pas autant que l'amitié, mais c'est dans un entre-deux où tu sais qu'on va se rejoindre dans un endroit pour pouvoir échanger sans être forcément, tu vois, sur un terrain de, comment dire, de professionnalisme hyper, hyper accru, quoi. Tu vois, t'es quand même sur un truc où t'as l'impression de passer, une heure chez un pote et puis tu ressors, quoi.
Eh ben, merci beaucoup, Antoine.
Merci à toi, Alain, ça me fait plaisir.
Vous venez d'écouter Occupation, un podcast TDA Média tourné et monté par moi-même, Alain Mattei. Vous nous retrouvez toutes les 2 semaines sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, les comptes Twitter, Instagram et Facebook ont tous le même nom, c'est @OccupationPod. Enfin, pour conclure cet épisode, un grand merci à Sophie S et à toute l'équipe du Garage pour son accueil à l'occasion de ce tournage. Si vous avez apprécié l'émission, n'hésitez pas à laisser un commentaire et quelques étoiles sur les différents stores. À très bientôt pour un nouveau reportage.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.